merveilleux dans tes œuvres, merveilleux dans tout ce que tu fais. Seigneur, nous voulons te dire merci pour nous avoir permis de nous approcher de toi, pour nous avoir donné la capacité spirituelle, capacité qui nous a permis non seulement d'aller au-delà du voile, mais aussi de nous prosterner devant toi pour te rendre, Seigneur, ô Dieu, notre louange, notre adoration. Nous te disons merci d'avoir eu une oreille attentive, Seigneur, à notre louange, à notre adoration, à nos chants et nos cantiques. Tout cela, ô Seigneur, est monté vers toi comme du parfum de bonne odeur, comme une offrande, Seigneur, agréable à tes yeux. Tu as accueilli favorablement nos prières, tu nous as accueillis nous-mêmes en ta présence parce que nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, nous sommes les brebis que tu as rachetées, ô Seigneur, par ta mort à la croix et par ta résurrection d'entre les morts. Merci pour toutes ces grâces, Seigneur, toutes ces bénédictions qui sont le nôtre de par notre position en toi, Seigneur. Merci pour tout. Apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Seigneur, apprends-nous, ô Dieu, à faire de toi la priorité de nos vies, à rester attachés à toi et à poursuivre notre marche vers l'éternité. Seigneur, en étant attachés à toi, Seigneur, en nous appuyant sur toi, en nous laissant porter par ta parole et par ton Saint-Esprit. Merci pour tout. Nous sommes privilégié, Seigneur, de t'avoir comme Dieu dans nos vies. Nous sommes un peuple, Seigneur, ô Dieu, un peuple qui t'appartient, non pas pour un temps, ni un temps des temps, mais qui t'appartient pour l'éternité. Nous savons qu'un jour, ô Dieu, nous passerons le reste de notre éternité avec toi et dans ton ciel de gloire. Mais en attendant, nous sommes encore dans ce corps de chair. En attendant, nous sommes encore en proie à toutes sortes de faiblesses, et nous avons besoin de ton soutien. Voilà pourquoi je prie pour que, Seigneur, par ta parole, tu nous fortifies, que par ta parole, tu nourrisses notre âme, que tu nous donnes tous les nutriments indispensables, vitaux, dont nous avons besoin pour poursuivre, Seigneur, notre marche avec toi. Merci pour tout. Parle-nous, fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, acclamons le nom du Seigneur. Voilà, nous allons sans plus tarder nous tourner vers la parole de Dieu et ce matin je voudrais une fois de plus revenir sur notre thème qui nous accompagne depuis plusieurs dimanches, à savoir l'importance de l'unité spirituelle. Ce qui est valable pour l'Église est aussi valable pour la famille. Une famille ne peut tenir que si les membres qui la constituent restent unis. Alléluia. Une famille ne peut aller de l'avant, ne peut remporter des victoires que dans la mesure où cette famille reste unie, ou dans la mesure où cette famille donc a des rapports mutuels, harmonieux et forts. L'importance de l'unité spirituelle dans le corps du Christ. Cinquième épisode, nous allons sans plus tarder lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, Paul aux Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. En effet, nous dit la parole, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs membres. Verset 26. en 27, formé de plusieurs membres, verset 26, « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, et tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. » L'importance de l'unité spirituelle dans le corps du Christ. Facteur important, vérité vitale pour tous ceux qui appartiennent au Christ, pour tous ceux qui sont en Christ. Nous sommes donc en train de voir, d'examiner la place que l'unité spirituelle a occupée dans l'Église primitive, à savoir la première Église, celle dont il est question dans le livre des Actes des Apôtres. Et pour cette première Église, pour cette Église primitive, ainsi que pour ses responsables, à savoir les apôtres, l'unité était d'une importance capitale, l'unité était d'une importance majeure. C'est ainsi qu'à chaque fois que l'Église du Seigneur a été confrontée à une crise, à chaque fois que cette Église est passée par des moments difficiles, eh bien les apôtres ont toujours cherché à privilégier des solutions qui allaient dans le sens de l'unité spirituelle, des solutions qui contribuaient à l'unité parmi les croyants, parmi les membres du corps du Christ. Ils ont toujours cherché, mes amis, des solutions qui favorisaient un climat de paix, un climat harmonieux, un climat qui contribuait au maintien de l'unité et au développement d'une vie reposant sur des liens solides, des liens fraternels solides, des solutions qui amenaient les gens à rechercher la paix, car il ne peut pas y avoir d'unité spirituelle s'il n'y a pas la paix. Vous ne pouvez pas être en unité avec quelqu'un, vous ne pouvez pas être en communion avec quelqu'un si vous avez des conflits avec lui. Il est donc important, et il est important pour l'Église primitive, mes amis, de tout faire pour conserver l'unité de l'esprit par la paix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et le dimanche dernier, nous avons vu comment les apôtres ont eu à gérer la première crise qui a frappé l'Église du Christ. L'Église, à un certain moment, se retrouvait, mes amis, dans une situation très difficile. Il y a eu de vives tensions entre deux groupes qui constituaient l'Église du Christ à cette époque, à savoir d'un côté les hellénistes, c'est-à-dire les juifs de la diaspora, les juifs de la dispersion qui avaient cru en Jésus-Christ, et d'autres prosélytes, c'est-à-dire des non-juifs qui avaient adhéré à la foi juive après avoir rempli certaines conditions. On retrouvait justement deux catégories de non-juifs, des païens, qui avaient adhéré au monothéisme juif. Il y avait d'abord les prosélytes. Les prosélytes étaient assimilés, étaient agrégés au peuple juif après avoir subi la circoncision, après avoir présenté un sacrifice au temple. Ces gens-là étaient donc admis au peuple juif et pouvaient prendre part à toutes sortes de cérémonies. Mais il y avait aussi les craignants Dieu. Eux, ils n'étaient pas circoncis, mais ils étaient tenus d'observer le Shabbat ou le sabbat, d'observer les prescriptions alimentaires, et comme ils n'étaient pas d'aller au temple, de payer le tribut au temple ou la taxe du temple, et comme ils n'étaient pas circoncis, eh bien ces païens-là, ces craignants Dieu, n'étaient pas légalement considérés comme peuple de Dieu. Enfin, on les tolérait. Et donc, il y avait parmi les hellénistes de juifs d'origine, mais qui étaient de la diaspora, qui parlaient le grec, qui avaient baigné dans la culture grecque, hellénique et tout ça. Et puis de l'autre côté, il y avait les Hébreux, c'était donc les juifs qui vivaient en Palestine, qui eux aussi se sont tournés vers le Seigneur. Et les deux communautés cohabiter au sein de l'église de Jérusalem. À un moment, des problèmes ont surgi. Il y a eu des tensions qui ont entraîné des murmures. Quelle était donc la cause? Eh bien, les hellénistes avaient constaté que leurs veuves n'étaient pas mieux considérées, n'étaient pas traitées de manière correcte lorsqu'il était question de donner la nourriture aux veuves. Et que les veuves des Hébreux, elles étaient privilégiées. Vous voyez? Et cela entraînait, mes amis, des tensions. C'était donc un contexte très difficile. C'était un moment important. Car comme vous le savez, le Seigneur le dit dans sa parole, dans les évangiles, le diable est là pour détruire. Le diable est là pour tuer. Voyez-vous, le diable est là pour ravager. Et le diable, je suis convaincu, n'attendait que cette situation pour arrêter l'œuvre de Dieu, pour distraire l'œuvre de Dieu, entraîner une sorte de division dans l'Église, amener les hellénistes à aller vers le nord, et puis les Hébreux à rester au sud ou à l'est, tout ce que vous voulez. Et les apôtres ont pris conscience de la gravité, mes amis, de cette situation. Ils ont établi des priorités pour eux. Ils ont dit, mais nous ne pouvons pas délaisser notre première vocation, qui est donc celle de persévérer dans la prière, mais aussi de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu. Alors, choisissez parmi vous. Quand ils disent choisissez parmi vous, eh bien, ils s'adressent à la fois à la communauté des hellénistes et à celle des Hébreux. Ils impliquent les deux communautés dans la résolution du problème. Alléluia. Choisissez, et ils posent les critères, sept hommes parmi vous qui ont un bon témoignage, qui soient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Et c'est sept hommes que vous allez choisir, qui auront rempli ces critères et ces conditions, eh bien nous les chargerons de ce travail. Eux s'occuperont justement de la gestion, de la distribution de nourriture aux veuves, aussi bien hellénistes qu'hébreux. Cette proposition apostolique plut à l'Église. Et c'est ainsi que pour la toute première fois, eh bien l'Église instaura le diaconat dans l'Église. L'Église s'organisa. Il y eut des diacres, les sept qu'ils avaient choisis, avec des noms extraordinaires, hein, Étienne, dont on dit que c'était un homme rempli d'esprit et de foi, et puis qui d'autre? Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmena et Nicolas. Sept personnes, sept hommes. Et ces bien-aimés vont donc s'occuper de la gestion, de la distribution de tout cela. Et c'est ainsi que l'Église échappa, voyez, ne tomba pas dans le piège de la division. Aujourd'hui, nous avons des diacres et diaconesses. Nous nous inspirons de ce qui s'était passé dans l'Église primitive. Mais qu'est-ce qui avait permis, mes amis, toute cette organisation? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu la crise. Quand une crise est bien gérée, eh bien, elle finit toujours par conduire l'Église dans des moments de gloire. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais pour autant que ceux qui aiment Dieu, eh bien, restent attachés à Dieu. Et ils sont restés au Seigneur, attachés au Seigneur. Ils se sont dit, nous sommes les membres d'un même corps. Et en résolvant cette situation, en trouvant une solution qui allait dans le sens de l'unité, eh bien, en faisant ce qu'il devait faire, le Seigneur a fait sa part, c'est-à-dire le ciel a réagi à cette démarche qui allait dans le sens de l'unité. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples s'est multiplié beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Vous voyez, quand ils ont résolu ce problème en privilégiant l'unité, quand ils se sont retrouvés de nouveau ensemble, eh bien, le Seigneur a fait le reste. Alléluia. Vous voyez, mes amis, comment les premiers disciples du Christ avaient compris la nécessité de privilégier l'unité, de chercher l'unité, car ils étaient conscients que lorsque le corps est uni, lorsque les gens marchent d'un même cœur et d'une même âme, lorsque le croyant se tient par la main, alors ils peuvent combattre d'une même âme et résister aux assauts du diable. Alléluia. Les sept hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit, de foi, qui jouissaient d'un bon témoignage, étaient des gens actifs dans l'Église. Vous voyez. Mais ils n'ont pas vu dans cette situation-là une opportunité de quitter l'Église pour aller lancer des ministères parallèles, pour aller s'autoproclamer prophète, apôtre, que sais-je. Ils sont tous restés, y compris Philippe. Philippe n'a pas brûlé les étapes. Il savait déjà prêcher. C'est plus tard, étant resté dans cette église, à la faveur de la persécution qui surgit à Jérusalem, que Philippe va partir et être utilisé par le Seigneur en Samarie et jusqu'à Césarée, c'est-à-dire sur le bord de la Méditerranée. Vous voyez, mes amis, s'il avait brûlé les étapes, s'il s'était dit, voilà, c'est une occasion pour moi, comme il y a des tensions dans l'église, eh bien, je vais essayer de prendre telle ou telle autre personne que je visite, je vais prendre les gens qui viennent à ma cellule pour en faire une église. Non. S'il avait fait ça, il serait passé à côté de la bénédiction du Seigneur. Car le Seigneur savait qu'un jour, il l'utiliserait. Philippe est resté. Et quand le moment est arrivé, eh bien, c'est Dieu qui va l'utiliser. Ainsi, nous allons le retrouver prêchant la parole de Dieu. Alléluia. Ces gens n'ont pas surfé sur le mécontentement général, sur cette tension entre les deux communautés, pour pouvoir, eh bien, quitter l'Église, se retirer et aller lancer des œuvres, ministruises, tout ce que vous voulez. Mais ils sont restés dans l'Église. Alléluia. Oh, alléluia. Vous voyez encore une fois, mes amis, l'unité est fondamentale. Ils sont restés parce qu'ils tenaient absolument. Ils savaient que le diable est là pour diviser. Le diable est là pour dresser les croyants les uns contre les autres. Voilà donc comment l'Église s'est prise pour aborder ce problème, cette crise, trouver des solutions qui permettent aux deux communautés de se retrouver de nouveau dans l'Église et de poursuivre leur marche comme étant de frères et de sœurs. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre crise, la deuxième crise. Qu'a connue l'Église, toujours dans le livre des Actes? Si la première crise a donc été provoquée par deux groupes qui constituaient l'Église à cette époque-là, à savoir les hellénistes et les hébreux, celle dont il va être question, eh bien, a été provoquée, non pas par la communauté, les gens de la base, passez-moi l'expression, mais plutôt par l'attitude et la conduite d'un haut responsable, c'est-à-dire, en l'occurrence, par un apôtre. Eh oui, ça peut arriver. Alors, deuxième crise que les apôtres ont eu à gérer au niveau de l'Église. Nous sommes dans Actes 10. Nous lisons les six premiers versets. Normalement, c'est tout le chapitre qui nous intéresse pour mieux comprendre cette deuxième crise. C'est le contexte qui va donc nous permettre de comprendre cela. Il nous est dit qu'il y avait à Césarée. Il faut savoir que dans la Bible, donc je profite toujours de l'occasion pour vous aider à aimer encore davantage la Bible, à comprendre certaines choses. Donc, quand vous lisez la Bible, vous devez savoir qu'il y avait deux Césarées. Donc, ces deux villes s'appelaient Césarée, c'était en l'honneur de César Auguste. l'empereur romain. C'est comme ça qu'on a appelé ça Césarée. Il y avait Césarée sur le bord de la Méditerranée, donc en Israël, et c'est là qu'il y avait le siège du gouverneur, du haut magistrat romain. Il ne pouvait pas siéger à Jérusalem. Il allait à Jérusalem pour certaines situations, quand il y avait des problèmes et tout ça, et puis il revenait. Il y avait aussi une garnison militaire, étant donné que le gouverneur romain, le magistrat romain, qui était donc chargé d'administrer cette contrée, habitait à Césarée, il y avait forcément une garnison. Et un des responsables militaires, un des chefs militaires de cette garnison, n'était autre que Corneille, dont il va être question. Comme ça, vous comprenez tout. Et puis l'autre Césarée, c'était Césarée de Philippe. Là, il faut remonter un peu. Ça va? C'est clair? Donc, il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Cet homme était pieux. Et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Donc, c'est encore un non-juif qui avait adhéré au monothéisme juif, qui avait donc adhéré à l'enseignement de juifs, ou à la foi de juifs, si vous voulez bien. Il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la neuvième heure du jour, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille !» Il fixa le regard sur lui et saisi de crainte, il lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. » Littéralement, tes prières et tes aumônes, j'ai déjà eu à parler de ce passage, se sont dressées un mémorial devant Dieu. Un mémorial, c'est quelque chose qui évoque le souvenir. Voilà, on a écrit, il y a eu une histoire, et puis voilà, on construit un monument, on construit un mémorial. Et donc, ces aumônes, ces prières, tout ce qu'ils faisaient, n'était pas de la vapeur qui disparaissait, mais tout cela s'est dressé droit devant le Seigneur. Alléluia. Ce que nous faisons, mes amis, avec amour, ce que nous faisons, nos prières, les actes que nous posons de générosité, mes amis, de fraternité, tout cela ne disparaît pas comme de la vapeur ou de la fumée qui apparaît pour un temps, disparaît pour toujours. Non, ça se dresse devant Dieu. Et le moment venu, le Seigneur regardera et dira, tiens, il y a ceci, il y a cela, je me lève pour rencontrer la personne. C'est ce qui est arrivé à cet homme. Alors, l'ange continue en lui disant, « Envoie maintenant des hommes à Jaffa, ou à Jopé, ça dépend des versions, et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. » Corneille est un païen. Même si il était un craignant Dieu avec sa famille, il reste un païen. Il est logé chez un certain Simon, courailleur, le gens qui travaillait la peau, dont la maison est au bord de la mer. Voilà. Il est en prière, un ange lui apparaît, et l'ange le rassure en lui disant, tes prières et tes aumônes, tout ce que tu fais au nom du Seigneur, quelque part, se sont dressés en mémorial devant le Seigneur. Maintenant, il m'envoie pour t'apporter ce message. Quel est ce message? Écoute, envoie des gens à Jopé ou à Jaffa, pour aller chercher un certain Simon, surnommé Pierre, qui loge chez un autre Simon, un homonyme, qui était courailleur sur le bord de la mer. Vous voyez, c'est Césarée, hein, sur le bord de la mer. Dès que l'ange fut parti, Corneille envoya ses serviteurs, accompagnés d'un de ses soldats, qui était pieux, et pour aller chercher Pierre, là où il était. La délégation se met en route pour aller chercher Pierre à Jaffa. Et alors qu'ils étaient en route, vous voyez comment Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Vous voyez comment il finit toujours par créer des événements qui concourent à l'accomplissement des promesses qu'il a faites à ses enfants. Alléluia. Pendant qu'ils sont en route, qu'ils se dirigent vers la maison, vers la ville où se trouvait Pierre, la Bible nous dit, au même moment, Pierre monta sur la terrasse, c'était vers midi, pour prier. Il n'était au courant de rien. Il y a des choses qui se passent au-dessus de nous. Nous ne savons rien. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Si le Seigneur vous met à cœur de prier, retirez-vous. Ne dites pas, oui, mais moi je n'ai pas un besoin particulier. Non, Pierre ne pouvait pas s'imaginer que dans sa vie de prière, c'était un homme de prière, comme les autres apôtres, que ce jour-là, alors qu'il voulait passer du temps avec Dieu, pendant qu'on lui préparait à manger, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait expérimenter quelque chose d'extraordinaire, qu'il allait recevoir un message de la part du Seigneur. Eh bien, pendant qu'on lui prépare à manger, alors qu'il est sur la terrasse en train de prier, cet homme eut une extase. Il reçut une vision. Et que voit-il dans cette vision? Eh bien, il voit le ciel ouvert. Et puis, il voit un objet semblable à une grande nappe, mes amis, attaché par les quatre coins qui descendaient du ciel vers la terre. Et dans cette espèce de nappe, il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre ainsi que les oiseaux. Donc, il y avait de tout. Et puis, pendant qu'il regardait cet objet extraordinaire, attaché par les quatre coins, rempli d'animaux, de bestioles impures, eh bien, il entend une voix qui lui parle et qui lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » C'est à partir du verset 9, hein. « Tue et mange. » Il faut savoir que le verbe traduit par « tuer » est un verbe qui s'emploie spécialement pour les victimes qu'on immole en sacrifice. Parce que le grec a d'autres mots pour « tuer ». Mais ici, c'est un rapport avec le sacrifice. C'est le mot qu'on utilisait lorsqu'il était question d'immoler un animal, une victime animale pour l'offrir en sacrifice. C'est ce verbe-là. Pierre répond dans cette vision, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui disant, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Et la Bible de nous dire que cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt l'objet fut retiré, et la vision s'arrêta là. Pierre est perplexe, Pierre est hors de lui-même, Pierre réfléchit quant au sens de cette vision. Il essaie de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Et pendant qu'il torturait son esprit, pendant qu'il cogitait, pendant qu'il essayait de comprendre, eh bien, les gens qui étaient venus le chercher arrivent. Et ils demandent à haute voix, « Est-ce que c'est ici qu'un certain Simon-Pierre loge ?» Pierre entend de là où il était à la terrasse. Et au même moment, le Saint-Esprit lui dit, « Lève-toi, descends, pars avec ces hommes, car c'est moi qui les envoie. » Normalement, qui avait envoyé cette délégation? C'est Corneille, non? Mais Corneille n'a fait qu'obéir, mes amis, à la vision et à la parole de l'ange. Et au-delà de l'ange, nous voyons le Saint-Esprit. Descends, pars avec ces hommes, car c'est moi qui les ai envoyés. Oh, alléluia! Pierre descend donc avec assurance. Il comprend maintenant. Et dit à ces gens-là, me voici, c'est moi que vous cherchez. Quel est le motif pour lequel vous êtes là? Voyez, il n'a pas dit, ah, oui, c'est moi, mais c'est le Seigneur dont vous avez besoin. Ça aurait été de la fausse modestie. Le Saint-Esprit a dit quoi? C'est toi qu'on. Mes amis, je voudrais que nous comprenions le privilège que nous avons d'être des outils entre les mains du Seigneur pour le salut des autres. L'ange qui est apparu à Cornée ne l'a pas évangélisé, ne lui a pas annoncé l'évangile. Et pourtant, l'ange était informé que Christ était mort pour le salut de l'humanité, que Christ était à la droite du Père. Les anges sont là, au service du Seigneur. Dieu n'a pas permis que l'ange annonce l'évangile. C'est un privilège qui est réservé à vous et à moi, de simples pécheurs. Vous imaginez, mes amis, le privilège que nous avons, privilège que les anges n'ont pas. Il dit, envoie les gens chez Simon le croyeur pour chercher Simon-Pierre. C'est tout. Il ne dit pas, il va vous parler de Jésus, préparez-vous, vous savez tout ça. Non, ce n'est pas son rôle. Ça, c'était une vocation réservée à ceux qui, au départ, étaient pécheurs. Ensuite, on fait l'expérience de la nouvelle naissance. Eh bien, les hommes expliquent à Pierre comment leur patron, leur chef, avait reçu une vision, un ange lui avait parlé, et ils étaient venus justement pour ça. Alors Pierre n'hésite pas, il les loge, il passe la nuit là-bas, et le lendemain, ils repartent tous. Pierre part avec certains frères de Jaffa qui l'accompagnent dans cette mission. Oh, alléluia! Il arrive chez Cornée. Entre-temps, Cornée avait rassemblé ses parents, mais aussi ses amis intimes. Il attendait, mes amis, avec impatience, d'entendre... D'abord de voir cet homme-là, Pierre, dont le nom est connu même au ciel. Oui ou non? Même au ciel, puisque l'ange a dit, va chercher Pierre, Simon. Voilà. Qui est alors cet homme? Peut-être qu'il s'attendait de voir un monsieur marchant avec prestance, avec une barbe jusqu'au nombril, avec un regard de prophète, parfumé, je ne sais de quel... quel encens religieux? Non. Il s'attendait. Qui est cet homme-là? Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Quand Pierre arrive, il voit un homme d'une apparence modeste, car n'oubliez pas que c'était un prêcheur de Galilée. C'était pas un grand érudit. C'était pas un professeur d'université. Il n'a pas été membre du Sanhédrin. C'était un simple juif. Qui passait son temps, qui avait une petite entreprise avec ses associés, qui passait leur temps à aller pêcher dans le lac de Galilée, et puis ramenait le poisson, il vendait, et voilà comment il vivait. Mais entre-temps, le Seigneur est passé par là. Ce n'est plus un simple homme. Quand il arrive, eh bien, Cornée sort. Cornée se jette à ses pieds. Pierre dit, non, ne fais surtout pas ça. Ne fais surtout pas ça. Relève-toi. Et puis ensuite, il entre et il voit des gens qui l'attendaient. Et puis Pierre leur explique. Il dit, si je suis venu quelque part, c'est parce que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé puisque il a interdit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Vous voyez? C'était une défense. Mais cette défense ne se trouvait pas dans la Bible. C'était une défense du judaïsme. Vous savez que le judaïsme avait développé toutes sortes de restrictions, toutes sortes de lois. Voilà. Par exemple, pour les juifs qui n'habitaient pas Jérusalem, qui devaient amener un animal en sacrifice, eh bien, l'animal ne devait pas parcourir un certain nombre de kilomètres. Au-delà, tu ne devais pas amener l'animal, il fallait absolument aller acheter l'animal à Jérusalem. D'où le fameux commerce au temple, où les gens venaient plutôt, au lieu de prier, non, ils venaient proposer la marchandise. Venez chez moi, ça ce sont les meilleurs pigeons. Venez chez moi, moi j'ai des agneaux, etc. Donc c'était ça. Bref, il leur explique. Et ensuite, il passe à l'annonce, à la proclamation de la parole, alléluia. Au verset 44-48, et je voudrais que nous lisions cela, toujours du chapitre 10, 44 à 48, la Bible nous dit, comme il prononçait encore ces mots, donc alors qu'il proclamait l'évangile, la Bible nous dit, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue, exalter Dieu. Alléluia. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus. Ils se sont rendus comme c'était au bord de la mer. Eh bien, il ordonna qu'ils soient baptisés au nom de Jésus. Et après cela, eh bien, tous ces nouveaux convertis, ces nouveaux chrétiens, demandèrent à Pierre de rester encore quelques jours. Ce que fit Pierre, mais aussi ceux qu'il avait accompagnés jusque-là. Alléluia. Jusqu'à ce stade, nous pouvons louer Dieu. Nous pouvons dire, Seigneur, merci, parce qu'il y a de nouvelles âmes qui sont entrées dans l'Église. Peu importe leur origine, mais ce sont des âmes pour lesquelles tu es mort. Ces âmes ont reçu ta parole. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, sur elles, et ces âmes font désormais partie de l'Église. Alléluia. Et donc, il y a maintenant une Église, un groupe de chrétiens qui démarre en Césarée. L'information arrive, la nouvelle arrive jusqu'à Jérusalem, auprès des autres apôtres et des autres frères circoncis, donc des frères juifs, enfin convertis évidemment, qui étaient dans la Judée, notamment Jérusalem. Comment ces bien-aimés ont-ils réagi? Après avoir appris que Pierre avait été chez les païens, et que ceux-ci, comble de tout, avaient reçu la parole de Dieu. Comment ont-ils réagi? Voyons leur réaction, chapitre 11, le 3 premier verset. Chapitre 11, les 3 premiers versets, nous lisons. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Si la Bible s'était arrêtée là et qu'on nous aurait demandé de dire la suite, d'écrire la suite, qu'est-ce que vous et moi nous aurions fait? Je vous laisse réfléchir. Quand les gens apprennent, quand nous apprenons que des gens se sont tournés vers le Seigneur, eh bien, beaucoup d'entre nous auraient écrit, eh bien, les gens de Judée, les apôtres, se sont réunis, ils ont organisé une réunion de réveil, au cours de laquelle ils ont rendu grâce à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, merci, ta parole est la vérité, etc. Non, nous suivons, nous continuons avec la lecture. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis, regardez, le prirent à partie. L'homme comprend en partie, c'est qui? C'est Pierre. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. C'est quelqu'un qui occupait une certaine position parmi les apôtres. Il était comme leur leader. Dès le premier chapitre du livre des Actes, celui qui prend toujours la parole, celui qui parle, qui se réfère à la parole de Dieu, qui initie à ce que Judas soit remplacé par quelqu'un d'autre. C'est encore lui qui prend la parole au jour de la Pentecôte. N'est-ce pas? Peut-être même que les gens, ces frères-là qui étaient circoncis et qui l'ont pris à partie, eh bien, s'étaient convertis lors de cette Pentecôte-là. Et maintenant, ils le prennent à partie. Et ils disent, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. J'essaie de m'imaginer un tout petit peu leur colère avant que Pierre arrive. Les uns allant trouver les autres. Tiens, Joseph, mon frère Joseph, tu as appris ça, ce qui est arrivé à Pierre? Non, je sais qu'il est parti à Césarée, j'ai eu du bruit. Il est allé prêcher l'évangile. Mais comment? Il est allé là-bas, chez les païens. Tu comprends bien? Chez les païens. Des païens qui n'étaient rien. Ah bon? Oh, toi aussi, tu dors. Tu n'as pas le discernement. Lui, même les autres apôtres, sont mécontents. Ah bon? Eh bien, vous voyez, ça jasait dans tous les sens. Et beaucoup de gens n'attendent que ce genre de situation pour se mettre à parler. On dit non, moi quand je l'observais, là, un jour j'étais en jeûne et en prière. Dieu m'avait mis à cœur. Il m'avait montré que cet homme-là, au-delà de ce qu'il est, il avait un problème. Voilà, maintenant ça confirme ce que j'avais reçu. Le pressentiment qui venait certainement de l'Esprit de Dieu. Ils l'ont pris à partir. Quel accueil, mes amis! Pierre est rabroué. Pierre est traité avec rudesse. Il est réprimandé pour ce qu'il a fait. Donc ça entraîne cette fois-ci des murmures parmi les hauts cadres, parmi les responsables, même les apôtres s'y mêlent. Comment ça va se terminer? Comment Pierre réagit-il alors qu'il est condamné injustement à cause de son attitude, à cause de sa conduite? Comment Pierre vit-il cette humiliation? Comment réagit-il? En claquant la porte, en disant, mais vous, petit, mais vous n'avez rien dans la tête. Vous avez peut-être oublié que ce moi, Pierre, ce nom Pierre, vous savez d'où ça vient? Mon père ne m'a jamais appelé Pierre. Demandez à mon frère André. Mon père m'a appelé comment? Simon. Quand je rencontre le Seigneur, il change mon nom. Vous me connaissez? Même vous, les autres apôtres, à qui le Seigneur avait dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, à qui? Et vous osez me rabrouer comme ça? Vous osez vous attaquer à moi? Écoutez, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Vous restez avec vos histoires là. Moi, je repars à Jaffa. Je vais continuer l'œuvre de Dieu. Nous allons nous séparer. C'était humiliant. Eh bien, c'est là que nous voyons que Pierre avait vraiment changé. Oui ou non? Ah oui, ça aurait été l'autre Pierre là. Je vous assure, certains se seraient retrouvés au sol. Parce qu'il était toujours le premier à parler. Il était toujours le premier à prendre la parole. Mais là, c'est un Pierre brisé. Là, la Pentecôte est passée. Pierre les écoute. Pierre ne choisit pas, ne profite pas de l'occasion pour dire, écoutez, maintenant, je pars. Je vais commencer une extension quelque part. Je pars. Je vais commencer un ministère, une œuvre. Église de Jésus-Christ sur la terre, part. Le super apôtre Pierre. Comme ça, ils vont savoir que ce n'est pas n'importe quel apôtre. Eux, ils sont apôtres. Moi, c'est super ou hyper apôtre, tout ce que vous voulez. Pierre n'a pas du tout agi de cette manière. Pierre a simplement pris la parole avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de conviction. Il leur a expliqué comment il avait été envoyé par le Seigneur. Tout avait commencé par une vision. Il leur dit, c'est pas de moi-même, par moi-même que je suis parti. Voilà, j'ai prié. Voilà, le Seigneur m'a donné une vision. Voilà, le Seigneur m'a donné le sens de la vision. Et pendant que je réfléchissais à la vision, eh bien, les hommes envoyés par Cornée sont arrivés. C'était des païens. Et quand ils m'appellent, le Saint-Esprit me dit, lève-toi, descends et pars avec ces hommes, parce que c'est moi qui les ai envoyés. Devrais-je désobéir aux instructions du Saint-Esprit? Il leur a expliqué, mes amis, comme il faut. Eh bien, cela a apaisé tout le monde. Alléluia! Et le résultat va être extraordinaire. Et Pierre, et les autres apôtres, ainsi que les autres frères qui avaient murmuré, tous, eh bien, ont été convaincus, non seulement par les propos de Pierre, mais également par son attitude de sagesse et d'humilité. Et le résultat, comme je le disais, va être plus qu'extraordinaire. Regardez le verset 18, et nous terminerons par là. Après avoir entendu cela, ils, c'est au pluriel, hein, c'est-à-dire, et les apôtres, et les frères circoncis de la Judée, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Alléluia. Ils se sont donc retrouvés de nouveau ensemble. Voyez? Et donc, de nouveau l'Église a fait face à cette crise parmi les responsables. Ça peut arriver. Nous sommes des humains. Voyez-vous, ça peut arriver parce que l'ennemi de nos âmes, eh bien, rôde autour de nous, individuellement, mais aussi autour de l'Église, cherchant qui dévorer, cherchant qui faire tomber, qui utiliser pour provoquer, créer la division. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, l'Église est éparpillée, l'Église, eh bien, descend sur le terrain, sur le champ de bataille, en ordre dispersé. Nous sommes des Paul. Nous sommes des Bondo. Nous sommes des Pierre. Mais pas d'unité. Mes amis, ces deux moments importants de l'Église du Christ, dans le livre des Actes, nous montrent toute l'importance, la nécessité de chercher absolument, par tous les moyens, à créer un contexte, à créer des conditions parmi nous qui permettent aux uns aux autres, à chacun de nous, de vivre pleinement l'unité dans le Saint-Esprit. Acclamons son nom. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Et nous remercions Dieu pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Une fois de plus, nous voyons comment la première église, qui reste un modèle pour toutes les églises, Seigneur, dans l'histoire des hommes, comment cette première église a eu à affronter différentes crises, mais comment cette première église, Seigneur, a privilégié des solutions qui allaient dans le sens de la paix, de l'unité spirituelle. Car, comme tu le dis toi-même dans ta parole au psaume 133, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile est la meilleure, qui est répandue sur la tête, descend sur les vêtements, sur la barbe d'Aaron, sur son corps, c'est comme la rosée de l'Hermon, car c'est là que l'Éternel envoie, ordonne la bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous avons besoin d'expérimenter cette vie. Nous avons besoin de bénédictions. Or, il y a des bénédictions que tu n'envoies que lorsqu'il y a l'unité. Alors aide-nous à chercher, Seigneur, à nous réconcilier avec les uns les autres si nous sommes en conflit. Aide-nous, ô Dieu, à travailler nos cœurs, à privilégier à chaque fois le maintien de la paix parmi nous. Seigneur, une paix qui nous amène à communier fraternellement, mutuellement, les uns avec les autres, et à créer, Seigneur, des conditions pour l'émergence de l'unité. Merci pour tout. Merci, Seigneur.